Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Once upon a time, there was a very, very good little girl who went a-riding on a train for half fare. Now, the big bad conductor wasn't so sure she was so very, very little. There was also some doubt whether she was so very, very good.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie Blu-ray et DVD. Avec deux films de Billy Wilder, Uniforme et Jupon Court, sorti chez Rimini, Ariane, sorti chez Carlotta, quatre films avec Rock Hudson, Ne dites jamais adieu de Jerry Hopper, Le sport favori de l'homme d'Howard Hawks, Les yeux bandés de Philippe Dunne, Étrange compagnon de lit de Melvin Frank, tout ça c'est sorti chez Elephant Film, toujours chez Elephant Film, trois films de Robert Mulligan, parfois même dedans il y a Rock Hudson d'ailleurs. Donc Le rendez-vous de septembre, Le roi des imposteurs, tous deux sortis en 61, et L'homme de Bornéo, et toujours chez cet éditeur, quelques films de guerre. Alors, L'Enfer des Hommes, de Jesse Hibbs, je vous parlais d'ailleurs surtout de celui-là, Les héros d'Iwo Jima, de Delbert Mann, Le combat du capitaine Newman, de David Miller, et Tobruk Commando pour l'Enfer, d'Arthur Hiller, ainsi que Le cinquième commando, d'Henri Hathaway, et autres films liés au genre, Jardin de pierre, de Francis Ford Coppola, qui est paru chez Carlotta. Et enfin, nous évoquerons le cinéma asiatique au sens large, avec La vengeance d'un acteur, de Kon Ishikawa, édité par Rimini, La condition de l'homme, trilogie de films réalisée par Masaki Kobayashi et sortie entre 1959 et 1961. Silence de Masahiro Shinoda, Made in Hong Kong de Fru Chan et Judo de Johnny To. Et tout ça, c'est chez Carlotta. Et on conclura avec quelques sorties Spectrum Film, à savoir Expect the Unexpected de Patrick Hyo et Love and Peace de Sono Sion. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Antoine Guérin, Thierry Lopez, Victor Lopez, Jean-Pierre Basseur et Thierry Vidot pour leur aide sur cette émission. Nous démarrons sur Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD, par un film de Billy Wilder. Alors Billy Wilder, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de Billy Wilder. Je vous ai parlé tellement de fois de Billy Wilder dans cette émission. Et là, on va parler de son premier film, Uniforme, donc au pluriel, et Jupon Court au singulier, qui est un film de 1942, qui raconte l'histoire de Suzanne Applegate, qui est, déçue par sa vie new-yorkaise de coiffeuse pour hommes à domicile et qui décide de retourner dans l'Iowa. Et comme elle ne peut pas, avec ses maigres économies, se payer le billet de train en totalité, elle se déguise en fillette pour bénéficier d'un demi-tarif. Et elle est traquée par les contrôleurs et elle se réfugie dans le compartiment au lit d'un bel officier instructeur. Et du coup, ce dernier va devenir son protecteur. Alors, d'abord, il faut savoir que Suzanne Applegate, c'est Ginger Rogers. Ça, c'est important de le dire. On a toutes les thématiques du cinéma de Wilder, voilà. On est toujours sur le fil entre ce mélange assez subtil de la finesse de Lubitsch et de la trivialité vraiment propre au cinéma de Wilder. Et il y a plein d'éléments qu'on retrouvera plus tard. Il y a le travestissement en fillette de la jeune femme. Il y a aussi il y a Ray Milland, le major, qui, qui est un peu tiraillé, hein, qui est à la fois son protecteur, mais qui se dit qu'elle est quand même rudement sexy, cette gamine de 12 ans. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouvera aussi dans certains Lem Show. On joue sur l'ambiguïté comme ça pour comment dire, l'ambiguïté sexuelle, et en même temps, ça crée une ambiguïté comique. C'est vraiment typique de Wyder. Et alors, c'est un premier film qui est parfois un peu laborieux parce que bon, il repose vraiment sur un seul, juste sur le fait qu'elle est grimée en gamine. Donc au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, mais on sent déjà le poindre le grand metteur en scène que Wyder va devenir. Et on sent que, comment dire, il y a des thématiques fortes qui vont revenir comme ça hanter son cinéma. Toi, Thomas, tu as vu Ariane. Ariane, c'est encore autre chose. On est à un moment de la carrière de Wyder. On est quelques années plus tard, puisqu'on est en 57. Hein. On passe de 42 à 57. C'est autre chose. Là, Wyder est vraiment au sommet de son art.
Ah oui, avec Ariane, sa carrière a largement décollé déjà. Et là, Ariane raconte l'histoire d'une jeune femme, une jeune étudiante en musique, hein, qui joue du violoncelle, dont le père est détective privé. Et en donnant les résultats d'une enquête à l'un de ses clients, son client sort un revolver et se met en tête d'aller tuer l'amant de sa femme. Alors Ariane, quand elle apprend ça, se met en tête, elle, de vouloir sauver cet homme parce qu'elle ne trouve pas normal qu'un homme puisse en assassiner un autre. Et donc elle va rencontrer Gary Cooper. Car l'amant de cette femme mariée n'est autre que Gary Cooper, un riche homme d'affaires américain, pétrolier, Coca-Cola, tout ça, etc., qui a une femme dans chaque port, voire même plusieurs, hein, plusieurs femmes dans chaque port. Et là, elle va se nouer une idylle entre cette toute jeune femme et cet homme de 40-50 ans qui considère les femmes comme des objets de consommation. Mais là, elle va lui faire quelque chose d'autre.
C'est très, très bon. Il y a ce côté doux-amer aussi. Hein. C'est peut-être le film, parce que Wyder, dans la mécanique du gag et dans son, comment dire, dans ses descriptions, moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas c'est pas manichéen, hein, quoi, chez Wyder. Et souvent, ces personnages sont malgré tout assez sinistres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce personnage interprété avec la grâce qu'on lui connaît par Audrey Hepburn, qui, en fin de compte, c'est un film assez féministe, parce qu'en fin de compte, c'est une femme qui va se délivrer de l'oppression masculine, et tous ces mâles alpha sont un peu tournés en ridicule. Et c'est quelque chose de très fréquent chez Wyder, même dans ses films considérés comme plus mineurs, comme Embrasse-moi idiot, par exemple, voilà, Kiss Me Quickly. Il y a toujours, chez Wyder, cette manière de traiter le rapport entre les hommes et les femmes. Non, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment très bien. C'est vraiment du bon Wyder. C'est peut-être le fait qu'il y ait Gary Cooper. Ça fera dire à certains critiques que c'est son film le plus lubitschien, puisque Gary Cooper et Maurice Chevalier, d'ailleurs, ce sont des acteurs qui sont très lubitschiens. Voilà, pour les amateurs. Voilà, et puis on développera peut-être un peu plus. On a déjà tellement parlé de Wyder dans cette émission, en long, en large, en travers. En tout cas, on est ravis que les éditeurs comme Carlotta et Rimini continuent de nous faire découvrir la riche carrière de un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Moi, je vais rester chez Elephant Film avec toute une série de films là qui est sortie avec Rock Hudson. Je vais les mettre un peu dans l'ordre chronologique. Hein. Je vais commencer par un film de 56 qui s'appelle Ne dites jamais adieu, qui est un film de Jerry Hopper, mais en fait c'est un film de Jerry Hopper et Douglas Sirk. C'est un mélodrame qui voit, pendant la Seconde Guerre mondiale, un brillant chirurgien être séparé de sa femme, et après une dispute, hein, et qui emmène sa fille. Et en fait, il croit que sa femme est décédée, mais ils sont séparés par le rideau de fer pendant de longues années, et il la retrouve, et il veut renouer avec elle une vie commune, et c'est très 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 difficile. Voilà. Donc évidemment, vous connaissez mon amour du mélo. c'est pas vraiment pour moi, c'est pas mon genre de prédilection. Alors on peut dire que malgré les très bonnes prestations, entre autres de Rock Hudson et même de George Sanders, hein, ouais, qui est pas un de mes acteurs préférés pourtant, C'est un petit mélo hein, qui pâtit peut-être de quelques difficultés de production lorsque l'on sait par exemple que Sirk a été viré du tournage au bout de quelques jours. Voilà, on peut se poser des questions sur la manière dont a été produit et fait ce film. Toujours dans ces films Rock Hudson assortis par Elephant Film, il y a Le sport favori de l'homme. Alors, une comédie signée Howard Hawks de 64. Évidemment, tout de suite, ça fait envie. Hein. Howard Hawks, ça fait toujours envie. Hein. Voilà, avec Rock Hudson en plus, quand même. Faut pas, quand même, hein. très bon acteur. Et là, alors c'est assez rigolo puisque c'est l'histoire d'un super pêcheur, du roi de la pêche à la ligne, en tout cas, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La pêche à la portée de tous et qui s'appelle Roger Willoughby. Déjà, Willoughby, déjà, c'est tout un programme. Et donc, tout le monde voilà, loue son livre, voilà, tout le monde passe écouter ses sages conseils hein, qu'il profère dans la boutique où il travaille. Et puis, personne ne met en doute ses compétences exceptionnelles dans l'art de la pêche. Et personne, pas même Abigail Page, arrogante et gaffeuse publiciste, qui envoie Roger gagner un concours de pêche sans se douter que le soi-disant expert n'a jamais pêché de toute sa vie. En fait, c'est un imposteur, parce qu'il déteste le poisson. Et donc, aidé par cette jeune femme qui l'a plongé dans l'embarras, eh bien, il va remporter la compétition. Voilà. Et tout cela, avec de nombreuses péripéties. J'ai envie de dire que c'est un petit Howard Hawks. C'est un tout petit peu mollasson. En tout cas, on est bien loin de l'époustouflant L'impossible Monsieur Bébé. Voilà. Le duo d'acteurs, fait ce qu'il peut, mais... Alors, le film manque pas de charme. Mais, je sais pas, il y a un truc, le film est un peu mollasson, il y a des moments où on s'ennuie un peu, il y a un peu des temps morts. C'est très étonnant, surtout quand on connaît Howard Hawks, comme quoi ça arrive à tout le monde, hein, de faire des films moins bons. Et puis surtout, je pense que le film pâtit d'une chose qui n'était pas forcément quelque chose de prévu par Hawks, c'est qu'en fait, Paul Apprentis, elle bouffe littéralement Rock Hudson. Sa prestation est extraordinaire, et en fait, Rock Hudson disparaît, il est mangé par cette actrice qui développe un talent comique incroyable, et en fait, du coup, ben, Rock Hudson, même s'il n'est pas mauvais, il est... Voilà, ça déséquilibre le film. Voilà. Et puis, autre film où là, Rock Hudson est très très bon, il forme un très bon duo, en l'occurrence Le Vénard en 65 avec Claudia Cardinal, qui en fait donc, se retrouve mêlée à une intrigue comme ça, typiquement 60s. Là, on parle du psychiatre Bartholomew Snow, qui est convoqué en grand secret par le général Pratt, et il lui demandait de soigner un savant, ancien patient, souffrant de dépression nerveuse. Ce dernier est tenu au secret dans une base. Snow y est amené les yeux bandés. D'où le titre, Les yeux bandés, le titre français. Donc, film d'espionnage, machination, en mode coolissime, quoi, voilà. C'est Rock Hudson en mode coolissime, avec en acolyte de charme Claudia Cardinal. Film très rythmé, très sympathique, typiquement 60s. Claudia Cardinal et Rock Hudson sont au top de leur beauté. La mise en scène est très inventive, c'est un film très très fun. Et puis, il y a une musique de Lalo Schifrin qui envoie du lourd. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà. Alors, vous réunissez Claudia Cardinal, Rock Hudson et Lalo Schifrin. Et vous avez un bon film. Et vous passez un bon moment. Écoutez Culture Prohibée. pour rester avec des Belges italiennes, toujours en 65, on va parler d'étranges compagnons de lit. Rocketson, une fois de plus, avec cette fois-ci Gina Lollobrigida. Alors là, on nous raconte l'histoire de Carter Harrison qui travaille dans une société pétrolière. Il rencontre un grand succès, mais sa vie personnelle est plus tumultueuse que sa vie professionnelle. Et il est marié à une Italienne exubérante et énergique. Pas besoin de vous expliquer qui, hein, voilà. Et son couple bat de l'aile et il demande la séparation. Mais il doit avoir une promotion en même temps, devenir un des plus grands dirigeants de sa société. Et on exige de lui qu'il puisse donner en Angleterre l'image d'un couple modèle. Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un film où Rocketson et Gina Lollobrigida s'en donnent à cœur joie et passent leur temps à se chamailler, à se faire des crasses, à se tirer dans les pattes, voilà. Et ça donne un film qui est un peu foutraque, qui part un peu dans tous les sens, comparé au précédent dont je viens de parler, mais Melvin Frank est un peu moins performant derrière la caméra que Philippe Dune. Mais ça donne un film assez pareil, très agréable et très sympathique. Autre film avec Rock Hudson et Gina Lollobrigida, incroyable hein, quand même, hein, le hasard fait bien les choses, sorti chez Elephant Film, un film de Robert Mulligan. Alors un film de Robert Mulligan qui s'inscrit là dans une série de films précoces de Robert Mulligan, qui est un réalisateur qu'on n'arrête pas de redécouvrir, qu'on adore et dont on a déjà énormément parlé dans l'émission. Là, c'est plutôt des œuvres de jeunesse. Un film de 61 qui s'appelle, Damien, Le Rendez-vous de septembre.
Dans Le Rendez-vous de septembre, comme tu l'as dit, on retrouve le duo Rock Hudson et Gina Lollobrigida. Mais on trouve également un deuxième duo qui joue des jeunes, qui est Sandra Dee et Bobby Darin, qui a fait une carrière musicale. Et je reviendrai dessus ensuite. Donc, de quoi nous parle Le Rendez-vous de septembre? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un richissime industriel américain, Robert Talbot, qui arrive beaucoup plus tôt que les années précédentes dans sa villa de vacances, qui se trouve sur la Riviera italienne. Le titre, du coup, vient du fait qu'il ne vient pas en septembre, mais bien avant, et d'habitude, quand il vient, c'est pour passer des vacances tranquilles. Néanmoins, il découvre que son majordome, Maurice, en son absence, en profite pour faire de sa villa un hôtel avec lequel il se fait un peu d'argent. Ce dernier est alors occupé par une bande d'étudiantes américaines chaperonnées par une dame très stricte qui perturbe ses rendez-vous amoureux. Il est rejoint par Lisa qui vient de quitter un homme qui était sur le point de l'épouser car elle s'était engagée avec lui, elle qui ne supportait plus ses rendez-vous de septembre mais qui finalement retourne dans ses bras. Mais l'arrivée d'un groupe d'étudiants américains clairement intéressés par les étudiantes déjà présentes va encore compliquer la situation, car alors Robert se pose en protecteur de leur vertu et décide de protéger ces jeunes filles dont il a à présent la charge. Alors c'est un film que je trouve très sympa et très très drôle, surtout car il repose sur plusieurs jeux d'humour que j'apprécie. On mettra d'abord en avant l'illogisme que j'aime beaucoup, qui est qu'en fait, soit le monde est tout petit, soit les Américains vont constamment au même endroit en vacances. Mais surtout, on se retrouve avec un majordome très drôle et carrément mythomane qui ment à chaque fois, quitte à mettre son patron assez dans la mouise. Et on se retrouve avec une dualité jeune-vieux que je trouve extrêmement drôle, car les jeunes qui sont amoureux des étudiantes et aimeraient bien nouer des relations avec se retrouve face à un Rock Hudson qui est censé jouer quelqu'un de plus âgé et donc plus vieux qui doit avoir plus de mal. Et dans chacun des plans des étudiants, comme leur faire parcourir de longues distances, le faire danser toute la nuit ou bien le faire boire des kilomètres d'alcool pour le mettre KO, au final, ce sont toujours les jeunes qui finissent par abandonner la partie et qui échouent dans leur tentative. J'ai parlé de Bobby Darin qui chante une chanson qui s'appelle Multiplication et qui est une chanson du coup qui parle de relations sexuelles et qui est extrêmement catchy, ce qui fait que même à la fin du film, je l'ai encore en tête.
Mon cher Damien, je vais rester la même année, mais en 61, avec un autre film de Robert Mulligan, pour dire qu'à l'époque, il travaillait énormément, qui s'appelle Le Roi des Imposteurs. Alors, Le Roi des Imposteurs, qui est basé sur un livre de Robert Crichton du même nom, The Great Impostor, qui met en vedette... alors, il n'y a pas Rock Hudson, hein. Il ne peut pas y avoir Rock Hudson dans tous les films qu'on chronique, qui met en vedette cette fois-ci Tony Curtis, acteur un peu mésestimé quand même, Tony Curtis, redécouvert pour ses rôles de fin de carrière comme chez Fleischer et tout ça, mais qui a souvent été un acteur dont on a un peu mésestimé le talent. Je trouvais qu'en fait, c'est quand même un très bon acteur.
Et là, il interprète un personnage réel, Valdo Demara. Et Valdo Demara, il est très peu connu chez nous, mais en fait, c'est un mec complètement incroyable. C'est vraiment un imposteur extraordinaire. Alors, il a été, on va faire son portrait très vite, hein. Il a été pendant un moment chez les moines trappistes cisterciens. Ensuite, quand il est chez les moines trappistes cisterciens, il devient le frère Marie-Jérôme. Voilà. En 1941, il s'enrôle dans l'armée américaine. Il déserte quasiment Fissa. Voilà. Et au lieu de se constituer prisonnier, il devient marin de la US Navy. Et puis, en faisant le ménage dans le bureau du commandant, il trouve du papier à lettres avec en tête officielle de la marine. Et surtout du papier à lettres aussi contenant, avec la signature et tout ça, d'un certain docteur Robert Linton French. Alors, il décide de se faire passer pour ce docteur. Voilà. Donc, il retourne dans un monastère trappiste. Bon, il aime bien la bière, je pense. Il ressort dans un monastère trappiste. Il se présente comme le docteur Robert Linton French. Il y reste un an. Ensuite, toujours sous le nom de Dr. French, il étudie la théologie, la cosmologie, l'épistémiologie. En 1945, le Dr. French, écoutez bien, se fait nommer doyen de l'école de philosophie du collège Gannon à Erie, en Pennsylvanie. Ensuite, il devient conférencier au collège Saint-Martin, près de Seattle. À ce moment-là, il est arrêté comme déserteur. Il y a l'armée qui retrouve trace de lui. Enfin, il est arrêté comme déserteur. Il est condamné à 6 ans de tôle, mais il fait qu'un an et demi pour bonne conduite. Ensuite, il part à Grand Falls. Et là, donc chez les frères de l'instruction chrétienne, pour y suivre un noviciat. Et il rencontre le docteur Joseph Sear. Et il lui vole son identité, il ne peut pas s'empêcher. Voilà. Il s'engage du coup comme médecin officier sous le nom du docteur Sear dans la marine canadienne. Il part en mission en Corée. Et son bateau recueille 19 Coréens blessés entassés dans une jonque, dont 3 grièvement, qui doivent subir des interventions chirurgicales immédiatement. Et en fait, il extrait des balles, arrête des hémorragies, il sauve tout le monde. Et du coup, il est repéré parce que son exploit est cité dans tous les journaux. Et alors, il y a le vrai docteur Sear qui dit « Mais moi, c'est moi le docteur Sear, c'est pas lui !» Du coup, il est viré de la marine. Voilà. Ensuite, une revue lui verse beaucoup d'argent pour qu'il raconte son histoire. Et puis, comme il est recherché sous une autre identité... Et en l'occurrence, Ben W. Jones, il devient gardien de prison au Texas, mais un détenu le reconnaît à cause de sa photo, parce qu'il a raconté son histoire dans le magazine où il a touché beaucoup de sous. Donc, il est chopé, mais il arrive à se sauver. Et il se trouve encore un travail sous un autre nom, Frank Kingston, dans un foyer pour jeunes handicapés mentaux. Puis après, il deviendra vedette de show télévisé où il raconte sa vie. Et enfin, il terminera sa carrière en tant que pasteur dans une paroisse du nord-ouest des États-Unis sur la côte pacifique. Donc, avec tout ça, vous doutez bien que Mulligan fait un film, ma foi, assez rythmé, assez sympathique. Alors, on est loin du Mulligan d'un été 42, évidemment. Ce n'est pas le Mulligan plus subtil et fin qu'on connaîtra ensuite. On est plus dans le Mulligan que tu évoquais à l'instant, plus léger, hein, voilà, Damien. Mais ça n'en reste pas moins un film, ma foi, plutôt sympathique. Voilà, avec un très bon Tony Curtis. When you see a gentleman be around a lady be buzzing, just count to ten, then count again, there's sure to be an even dozen. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Now there was two butterflies casting their eyes both in the same direction. You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Let me tell you now, I'll say one and one is five. You can call me a silly goat, but you take two minks, add two winks. You got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances.
Multiplication, that's the name of the game. In each generation, you know to play the same. Hear me talking to your mother nature's a clever girl. She relies on habits. You take two hands with no care.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. Some parakeets in between tweets sometimes get too quiet. Oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know they play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same.
On va retourner voir Rocketson en compagnie de Thomas. Rock Hudson, qui en 62 tourne également, lui, encore avec Robert Mulligan. Donc, encore un film sorti chez Elephant Film, L'Homme de Bornéo.
Ouais, et encore une histoire d'imposteur, voilà. Rock Hudson joue un scientifique qui arrive à Bornéo. C'est un jeune scientifique qui est muté dans un petit village de Bornéo auprès d'un médecin. Et qui est censé soigner les autochtones, en fait, voilà. Et en fait, non, Rock Hudson joue un arriviste qui veut se faire un nom pour pouvoir ensuite développer sa carrière en Europe, après avoir piqué le boulot de ceux qui bossaient là-bas à Bornéo, des médecins qui bossent depuis des années à Bornéo. Bon, c'est un petit Mulligan hein, qui m'a pas passionné plus que ça, hein, je dois l'avouer. Mais le film est particulièrement intéressant dans sa dernière partie. Bon, c'est un film qui peut aussi être interprété comme plutôt prosélyte. Voilà, prosélyte religieux, catho. Hein. Mais sa dernière partie, on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, parce que Rock Hudson est aux prises avec la magie noire dans la jungle, où un sorcier insaisissable se joue de lui pendant une demi-heure. Bon, pour nous, c'est une demi-heure, mais pour lui, c'est quelques jours quand même. Hein. Donc ça change un peu tout. Hein. Pour nous, c'est passionnant, pour lui, c'est plutôt pénible. Et je trouve que cette partie est vachement intéressante parce que quelque part, ces gens, ces missionnaires-là qui veulent venir être les bienfaiteurs des autochtones, etc., qui sont rejetés par ce sorcier qui ne veut pas les voir, qui rejette tout, leur science, leur culture, etc., quelque part, ça peut être aussi un film contre la colonisation. Cette petite demi-heure peut aussi être quelque chose contre la colonisation. En fait, Rock Hudson, à la fin, en reconnaissant Dieu, parce qu'il était athée pendant tout le film, en reconnaissant Dieu quelque part, il reconnaît que sa civilisation est la sienne et qu'il ne peut pas interférer avec les autres. Voilà. C'est mon interprétation personnelle du film. Hein, Robert Mulligan, que je trouve quand même assez moyen. Un petit Mulligan qui n'est pas aussi bon que The Over ou alors To Kill a Mockingbird, qui sont deux grands films de Mulligan.
On va continuer chez l'éditeur Elephant Film. Avec toute une salve de films là qui est constituée de films de guerre. Il y a plusieurs films. Il y a L'Enfer des Hommes de 55 de Jesse Ibbs. Je le garde pour la fin, celui-là. Voilà. Les Héros d'Iwo Jima de Del Berman. Un film de 1960. Je vous en reparle après. Et puis il y a les autres films de la salve que je trouve moins intéressants. Le combat du capitaine Newman de 63 de David Miller, pourtant réalisateur intéressant. Tobruk Commando pour l'enfer en 67 d'Arthur Hiller. Et le cinquième commando en 71 d'Henri Hathaway. Après, je partirai de chez Elephant Film. Je laisserai Thomas nous parler des Jardins de pierre de Coppola, qui est une autre vision de la guerre. Mais on est moins dans le pur film de genre. Hein, voilà. Je vais aller assez vite sur les films que je trouve un peu plus mineurs dans cette salve de films. Il y a Le combat du capitaine Newman, qui est un film de 63 de David Miller. Alors, David Miller, c'est le réalisateur de ce film magnifique qui est Seuls sont les indomptés avec Kirk Douglas. Film extraordinaire. On avait parlé aussi d'un film noir de David Miller dans cette émission. C'était Le masque arraché, voilà, film assez extraordinaire aussi. Bon, là, dans ce film de 63, avec Angie Dickinson, Robert Duvall, Gregory Peck, Tony Curtis, c'est pas mal comme distribution, hein, on a fait pire. Il signe une comédie un peu étrange, une comédie un peu amère, sur le corps médical dans l'armée américaine. Là, ce sont des psychiatres. Hein, donc voilà, ce ne sont pas des,
ce ne sont pas des chirurgiens. Et on est 7 ans avant MASH, en fait. Et on découvre le travail du capitaine Josiah Newman, donc le fameux capitaine Newman du titre, qui est dévoué donc, au service psychiatrique qu'il dirige et où sont traités les soldats traumatisés par l'épreuve des combats. Alors bon, j'ai dit comédie, c'est plutôt une comédie dramatique, mais il y a des vrais moments où on essaye d'aller vers la comédie, c'est un peu étrange. C'est un film qu'on a parlé tout à l'heure de MASH, donc Robert Altman. Récemment, on l'a revu parce que c'est sorti, on en a parlé dans une autre émission, on en parlera, c'est les premiers films de Forman. On peut dire qu'il a mâché un peu le travail pour ces films-là. C'est un film qui vient s'inscrire dans cette mouvance, comme ça, des comédies qui brocardent un peu l'institution sans vraiment la brocarder. Et enfin, voilà, c'est un film un peu bâtard, voilà, que je trouve pas forcément très réussi. Malgré sa distribution extraordinaire. Après, je vais vous parler d'un autre film que forcément, Quentin Tarantino a vu, hein, pour ceux qui ont vu Once Upon a Time in Hollywood, c'est Tobruk Commando pour l'Enfer, un film de 67, un film de Arthur Hiller. Alors, ça se passe en 1942 sur le front nord-africain avec George Peppard, qui adore un plan qui se déroule sans accroc, hein, voilà, vous aurez compris. Ça se passe sur le front nord-africain. Les Alliés montent une opération secrète pour détruire les réserves de carburant des nazis à Tobruk, en Libye. Avec l'aide du Major Craig, un officier canadien et d'espions juifs allemands, ils doivent traverser près de 1000 km de désert. Et là, bon, on est quand même dans un film qui est tourné 4 mois avant le film d'Aldrich, Les 12 salopards, on est dans un film de commando. Hein. Et c'est un film, pourquoi je dis que Tarantino l'a vu parce qu'on va dire que le père Peppard, il aime bien décaniller les nazis au lance-flammes. Voilà, ça c'est voilà, c'est un grand moment de bravoure du film, c'est le moment de bravoure du film. Alors, c'est un film, j'ai envie de dire, à l'idée prometteuse, parce qu'il n'y a pas tant de films que ça sur le front nord-africain. Hein. Non seulement sur le front nord-africain, puis en plus, on y brûle des nazis. Donc, bon, voilà, ouais, toujours des films qui font plaisir, quoi. Donc, film à l'idée prometteuse, mais la mise en scène est mollassonne. Et heureusement que ce final dantesque, dans tous les sens du terme, avec un George Peppard qui crame du nazi au lance-flammes, vient pour nous réveiller. Et alors, l'éléphant de film a la bonne idée de sortir ce Tobruk Commando pour l'enfer avec le 5e Commando, qui est sorti quand même quelques années plus tard, en 71, hein, le Commando pour l'Enfer, c'est 67, qui est en fait, ils nous refont le coup, hein, refont le coup des 7 bérets rouges, les films italiens dont on avait parlé dans l'émission. C'est-à-dire que le 5e Commando reprend la moitié du métrage précédent dont je viens de vous parler, c'est-à-dire reprend des scènes de Tobruk Commando pour l'Enfer. Il en reprend la moitié, voilà. La moitié du film est constituée de scènes issues de Tobruk Commando pour l'Enfer. Alors l'histoire, c'est quoi ? Alors, il y a Richard Burton dans le rôle principal, hein, et Henri Hathaway à la mise en scène, et Richard Burton peut-être venu éponger une dette de jeu ou se payer une cure de désintoxication, je ne sais pas. Bon, il a toujours la classe, hein, quand même, Richard. Moi, c'est toujours dangereux d'aller faire tourner des films en Afrique à Richard Burton. On rappelle que pendant le tournage de Cléopâtre, il a disparu pendant des mois parce qu'il était parti faire le tour des bars et des bordels. Hein. Du coup, il faut faire gaffe avec Richard Burton. Afrique du Nord, Libye 43, le capitaine Forster, officier britannique germanophone, et non pas germanophobe, infiltre et prend le contrôle d'un détachement allemand motorisé en plein désert et à l'aide de ses prisonniers anglais. Et il attaque ensuite la base du général Rommel, à Tobruk. Voilà. Alors, à l'origine, c'est un téléfilm et la Universal décide de l'étoffer en glissant donc toutes ces séquences de Tobruk Commando pour l'Enfer, dont on vient de causer un instant. Du coup, ça donne un film un peu étrange qui évoque... Alors, c'est marrant parce que, par contre, du coup, je pense que c'est guidé par le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix techniquement, mais j'utilise des techniques de raccord son et tout qui viennent tout droit de la nouvelle vague française. Ça fait un peu étrange au milieu d'un film quand même qui est digne d'un film bis, hein, et italien, sauf que là, il y a un peu plus de pognon, évidemment. Ça donne quand même un drôle d'objet filmique, un drôle de film vraiment étrange. Et c'est assez marrant parce que, évidemment, vous voyez Richard Burton d'un côté avec un lance-flamme dans la main, puis de l'autre côté, vous voyez les images du film que vous venez de voir juste avant, en l'occurrence Tobruk Commando pour l'Enfer. Et vous vous dites, c'est pas George Peppard, là, ce coup-ci, j'ai du mal à suivre. Écoutez Culture Prouille. J'ai gardé pour la fin les deux films qui sont pour moi le plus intéressant de cette salve, même si les autres sont sympathiques. Un film méconnu qui s'appelle Le Héros d'Iwo Jima, un film de 61 de Delberman avec James Franciscus, Tony Curtis, une fois de plus, Gregory Walcott, Edmond Hashim. C'est l'histoire de Ira Ice, un jeune prima qui part de sa réserve contre l'avis de sa famille pour s'enrôler dans le corps des Marines en pleine Seconde Guerre mondiale, plantant avec ses camarades le fameux drapeau américain immortalisé par la photo de Joe Rosenthal sur l'île d'Iwo Jima, puis rapatrié dans son pays à des fins de propagande avant de sombrer dans l'alcool et la dépression. Un film que je ne connaissais pas, signé par un réalisateur que je connais mal, Delberman, un film très intéressant. On est très 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 longtemps avant le film de John Woo, 40 ans avant le film de John Woo, Windtalkers, qui traite d'un sujet similaire. On retrouve le sergent instructeur Braillard, figure qu'on va retrouver ensuite dans plein de films de guerre, sauf que là en 61 c'est pas quelque chose qu'on trouvait assez fréquemment. Et puis évidemment ça évoque le film d'Eastwood, les lettres d'Iwo Jima, parce que c'est même la même base, voilà. Et puis il y a le plan du film de Spielberg où il y a, le plan du soldat Ryan, où un vétéran se tient devant un monument funéraire à un moment dédié à ses camarades. Et il se pose la question, est-ce que moi, je mérite d'avoir survécu, tout ça et tout. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Spielberg. Donc ce film, en fait, est une sorte de matrice. C'est un grand film précurseur qui a été... On retrouve sa trace dans plein d'autres films de guerre américains dans les années à venir. Et donc, pour moi, c'est un grand film méconnu. Et à ce titre-là, c'est un vrai film à découvrir, à redécouvrir. Et là, je félicite Elephant Film pour avoir sorti ce film que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai gardé, pour moi, le meilleur film de la salle pour la fin. Peut-être pas le meilleur artistiquement parlant, c'est celui dont je viens de vous parler, là, Le Héros d'Iwo Jima de Delberman. Mais le film qui m'a le plus intéressé, c'est le film de Jesse Ibs, qui s'appelle L'Enfer des Hommes, qui est un film de 55. Et ce film, c'est un exemple unique d'un acteur dont je vous ai déjà parlé, Audie Murphy. Audie Murphy, acteur que j'adore, c'est un acteur de série B, très peu connu, Audie Murphy. Son film le plus connu, c'est Une balle signée X de Jack Arnold, où il fait le méchant. C'est pour ça que c'est son meilleur film, d'ailleurs, parce qu'il fait le méchant. Et le problème d'Audie Murphy, vous savez quoi ? C'est le problème d'Audie Murphy, c'est qu'il a une tête de bambin pubère, alors qu'en fait, c'est le soldat le plus décoré de l'histoire des États-Unis. Vous savez, c'est ce fameux mec qui a, à lui tout seul, exterminé toute une colonne allemande pour sauver son régiment, à lui tout seul. Alors tout ça, vous le voyez dans le film. Alors, on peut supposer que les parties les plus noires, parce qu'il paraît qu'il a aussi égorgé et tout ça, ont été supprimées. Alors, évidemment, il y a l'armée qui est derrière le film. Donc, c'est assez... Il y a un côté patriote dans le film. Mais il y a de l'héroïsme, mais pas trop. Et c'est quand même assez unique de voir un mec qui raconte sa propre vie jouer son propre rôle dans un film... Et là, c'est Audie Murphy donc, qui joue son propre rôle dans un film réalisé par Jesse Ibs, qui est un réalisateur de série B assez plat, un technicien sans génie. Et à la limite, c'est ce qu'il fallait. Alors, le scope est beau, mais il n'y aura aucun grand plan de cinéma. C'est-à-dire que vous avez un film qui est bien filmé, qui est bien fait, mais ce qui est passionnant dans le film, c'est l'histoire d'Audie Murphy, en fait. Et on savait pas mal de choses, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Audie Murphy a vraiment vécu la guerre, il y a des trucs très intéressants dans le film. Par exemple, on voit que dans les soldats, il y a des Indiens, des Polonais, des Latinos, des Italiens, des Noirs. On voit que ces soldats essayent, certains n'ont pas de papier, donc pour gagner leur nationalité, ils font la guerre. Voilà. On voit aussi des choses en fait, dont on parle assez peu.
Alors, je sais pas, dans le film, peut-être qu'ils, pour les, quand ils ont fait le film, ils pensaient que ça montrait des choses émancipatrices. Hein, peut-être que leur modèle de société était quelque chose qu'ils voulaient vanter. Mais en attendant, c'est assez intéressant. Il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on montre que tous les exploits réalisés par Audie Murphy sont des exploits qui sont aussi liés au groupe. C'est-à-dire qu'il ne les a pas réalisés tout seul. Voilà. Il s'héroïse pas trop, en fait, Audie Murphy. C'est ça qui est assez intéressant. Il n'y a pas trop de musique, même si au début, il y a beaucoup de musique glorificatrice. La première demi-heure, on a peur, puis après, ça s'estompe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des soldats qui sont montrés un peu, pour certains, malheureux, dépressifs. On bat un peu en brèche le modèle américain. C'est certains des prolos avouent qu'ils ont été obligés d'abandonner leurs études parce qu'ils étaient soutien de famille. C'est le cas d'Audie Murphy, qui, dès 13 ans, a dû soutenir sa famille financièrement et aller travailler, parce que son père avait disparu et que sa mère était seule pour élever. Ils sont 5 ou 6 enfants, je crois, je ne sais plus. Donc, il est obligé de travailler. Et c'est intéressant parce que c'est un film à double discours, parce que ces soldats US qui valeureux, qui délivrent le monde, il y a toute la campagne italienne qui est montrée, qui est assez intéressante, et il y a ces soldats sont aussi angoissés, sont aussi terrifiés par moments, et il y a la bataille d'Anzio, qui est un grand moment dans le film, parce qu'on voit cette bataille, c'est boueux, c'est sale, les soldats sont sales, c'est pas l'image assez clean qu'on avait dans pas mal de films de guerre de l'époque. Et puis on montre aussi les dégâts de la guerre, c'est-à-dire qu'à un moment ils font une pause à Naples et on voit bien tous ces enfants dans les rues qui sont affamés, des orphelins. Il y a plein de choses dans ce film qui sont très très intéressantes. Il faut savoir que Audie Murphy, c'est une telle légende aux États-Unis et que en France il est quand même assez méconnu, même s'il y a un monument à lui. Il a eu toutes les décorations militaires françaises aussi, hein, et c'est le soldat le plus décoré de l'histoire des États-Unis. De toute façon, c'est aussi, je pense, un de ceux qui a tué le plus d'ennemis, qui a tué le plus de nazis. Donc voilà. Et c'est aussi le premier homme à avoir parlé du syndrome post-guerre. En fait, il dormait avec un fusil sous son, un pistolet sous son oreiller. Il a été terrorisé par la guerre. Il a été un peu détruit quelque part. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a dans les bonus Laurent Aknin qui dit quelque chose de très intéressant. Il explique qu'en fait, Audie Murphy n'a jamais fait la grande carrière qu'il aurait pu faire, parce qu'il n'était pas mauvais comme interprète, mais c'était qu'un interprète, c'était pas un acteur. Et alors que John Wayne, lui, qui n'a jamais, jamais été à la guerre, n'a jamais même été à l'armée, est devenu un grand héros américain, contrairement à lui, qui était un vrai héros américain, qui est star aux États-Unis quand même, hein, il est connu, hein, mais qui a été oublié. John Wayne, lui, n'a pas été oublié, parce que c'était un acteur avec une présence extraordinaire. Et d'ailleurs, Audie Murphy a failli travailler avec John Ford, ça ne s'est pas fait, et donc ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Alors en tout cas, moi, je vous conseille vivement ce film, et si vous ne connaissez pas Audie Murphy, plongez-vous dans sa filmo, parce qu'il a fait un paquet de westerns fort sympathiques. On va rester dans l'univers du film de guerre, même si on n'est plus vraiment dans le film de genre, là, avec Jardin de pierre de Francis Ford Coppola, mon cher Thomas, qui est paru chez Carlotta, par contre.
Francis Ford Coppola, qui bien des années plus tard revient à la guerre du Vietnam avec Jardin de pierre, mais cette fois en le prenant sous un autre angle. Ce sont les soldats qui sont à l'arrière, les soldats qui enterrent ceux qui sont morts au front au Vietnam. Donc on suit James Caan qui joue un sergent instructeur qui est à la tête d'une section d'élite, qui s'occupe de l'enterrement de ces soldats morts au front. Et James Caan qui lui est un vétéran, est allé deux fois au Vietnam, est partagé entre l'envie d'y aller et l'envie de ne pas y retourner, parce que quand même c'est pas vraiment une promenade de santé le Vietnam, hein. Et il y a une nouvelle recrue qui va venir, qui est incarnée par D.B. Sweeney, et qui va prendre un peu sous son aile, comme un fils spirituel, qui, lui, rêve de gloire et veut aller casser du niaque. Hein. Lui, il a envie. Hein. Et c'est un film plutôt intimiste de Coppola. Hein. Pour moi, c'est plutôt un Coppola mineur. Hein. C'est pas un film qui m'inspire beaucoup, notamment à cause de ce personnage de D.B. Sweeney que je trouve particulièrement antipathique. Et ça, ça aide pas.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD.
On va terminer ce tour d'horizon des dernières sorties avec quelques films asiatiques. Oh, on est un peu pris par le temps, donc on va aller assez vite. Je voulais vous parler de La Vengeance d'un acteur, sorti chez Rimini, un film de Kon Ishikawa, où un acteur de Kabuki joue avec sa troupe, hein, à Edo. Et puis, dans la salle, il voit deux personnes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Et à l'époque, il avait décidé de se venger. Et là, eh ben, il va se venger. Et pour cela, il va se servir de la fille d'un des deux, d'ailleurs, qui est tombée amoureuse de l'acteur. Alors, comme on n'a pas le temps de trop développer, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres émissions, mais grand film d'Ishikawa, avec qui est quand même un film très singulier, parce qu'il mélange à la fois le côté, le jeu avec les clairs-obscurs, et un film, c'est un film assez dingue, parce que derrière le classicisme, il y a, on a un film dans lequel se mélange à la fois le théâtre kabuki, le shambara, le mélodrame, le film sentimental, le film social. On parle beaucoup de la corruption, on parle de la spéculation d'ailleurs, voilà, des sujets pas forcément abordés tant que ça à l'époque dans le cinéma. Et puis il y a même des scènes un peu comiques dans le film. Enfin, c'est vraiment un film hybride, assez sensationnel et esthétiquement vraiment, vraiment somptueux. Autre série de films absolument somptueuse, la série de films de Masaki Kobayashi, représentée comme un seul film, mais en fait, c'est une fresque, hein, en trois parties. C'est La Condition de l'Homme, mon cher Thomas.
Ouais, un film d'une grande gaieté, La Condition de l'Homme. Alors, ça dure 9h35, hein, en tout et pour tout. 9h35, et oui. Vous rentrez chez vous à 18h, vous vous mettez tout de suite, hein, vu que c'est le confinement, comme vous dormez mal à cause de confinement, etc., etc., bah, vous en êtes jusqu'à 3-4 heures du matin, quoi. Voilà. Donc La Condition de l'Homme, c'est l'histoire de Kaji qui ne veut pas aller faire la guerre. On est dans les années 40, ça se passe en Mandchourie. Kaji ne veut pas aller faire la guerre et il est exempté et il devient chef du personnel dans une mine quelque part en Mandchourie. Mais seulement Kaji qui a un certain côté humaniste, hein, qui veut voir les choses d'un côté plutôt... De façon humaniste, eh ben, ça ne va pas se passer comme il veut. Hein. C'est la façon dont il va traiter le personnel. Enfin, surtout, les gens à qui il travaille n'ont pas la même vision que lui. Évidemment, s'il avait connu Jeff Bezos ou Nicolas Sarkozy, il saura que travail et humanisme, ça ne va pas du tout ensemble. Évidemment, il va s'attirer à l'inimitié de ses chefs, mais aussi de l'armée, car lui, il veut traiter humainement les employés, notamment des employés qui sont des prisonniers chinois et qui sont plutôt maltraités, et lui ne voit pas les choses de la même façon, et malheureusement il va se retrouver engagé malgré lui pour le punir de ses vues pacifistes, on va dire, et donc il va se retrouver au front. Ça, c'est la deuxième partie, hein. Le film est en trois parties, enfin il y a six films qui font trois parties, et donc la deuxième partie, il va se retrouver au front à la guerre, avant d'être se retrouver prisonnier par les Russes dans un camp de travail. En fait, c'est pas vraiment un film sur la guerre, hein. C'est plutôt un film sur le travail, en fait, un film sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors c'est superbe, hein. La photographie en noir et blanc, superbe, un cinémascope incroyable. Alors ça se partage entre le réalisme, une mise en scène très réaliste, et parfois des scènes très oniriques, très poétiques, notamment certaines scènes sous la neige où on n'est pas loin de l'onirisme. C'est une œuvre, c'est une grande fresque traversée par un souffle. Enfin, à regarder d'un coup, faut quand même le digérer, quoi. C'est quand même c'est un très grand film dans tous les sens du terme, hein. 9h35, je le rappelle. Et à voir absolument, ça fait partie des musts et des meilleurs films de Masaki Kobayashi.
On va terminer ce tour d'horizon alors très rapidement, hein, voilà. On reparlera de ce film-là d'ailleurs dans une autre émission. C'est Silence de Masahiro Shinoda, qui est inspiré donc d'un classique de la littérature. Japonaise, qui raconte l'histoire de deux prêtres jésuites au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites portugais, qui débarquent sur la côte japonaise pour faire du prosélytisme, en gros, hein, là où la religion catholique est interdite et ses fidèles persécutés. Alors,
grand film de Masahiro Shinoda, je vous dis, on en reparlera parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui a effectivement inspiré, je l'ai reçu quelques jours avant l'enregistrement, donc c'était pas prévu d'en parler. Donc je vous le dis juste très vite, parce que je vous conseille de l'acheter, parce que je pense que c'est un film assez peu connu, et c'est un film d'une grande beauté plastique, un film aussi violent, hein, voilà. Enfin, c'est vraiment un grand film de cinéma, et je vous le conseille vivement, mais on en reparlera plus en détail. Alors, on va enchaîner avec d'autres sorties Carlotta, parce que tout ça, c'est chez Carlotta. Alors, on va parler de Made in Hong Kong de Fru Chan, qui est un film qui raconte l'histoire de Miout. Alors, Miout, c'est son nom, hein, voilà, qui est collecteur de dettes pour des types de la triade, voilà. Et puis, en fait, son quotidien va être bouleversé parce que par deux événements, hein, la découverte par Jackie, petit voyou handicapé mental qu'il a pris sous son aile, de deux lettres d'adieu laissées par une jeune suicidée, et sa rencontre avec la jolie Haping, dont il tombe rapidement amoureux, sauf que celle-ci est atteinte d'une maladie incurable. Alors, c'est un film de 95, il aborde frontalement, en fait. Alors, c'est un film qui a vraiment un côté adolescent, assez flamboyant, assez vif. Alors, on en a déjà parlé dans l'émission, parce que c'était ressorti aussi il n'y a pas longtemps, mais là, c'est ressorti dans une édition un peu plus, en tout cas en termes d'image, un peu en HD, quoi, voilà. C'est le film sur la rétrocession, hein, voilà, je vous le conseille vivement, si vous ne l'avez pas vu. C'est un film porté par une fureur adolescente. C'est une sorte de fureur de vivre, Made in Hong Kong. Autre film dont on a déjà parlé, mais il y a fort longtemps, un film de 2004, un film de Johnny To, qui s'appelle Judo, qui est l'hommage que Johnny To rend à Kurosawa, qui est l'hommage au fameux judo de Kurosawa, la légende du grand judo, un film de 43, qui doit être disponible, mais peut-être difficilement en DVD chez HK Vidéo. Et là, c'est l'histoire d'une rédemption, hein, d'un fêtard, d'un alcoolique notoire, d'un gérant d'un club qui croule sous les dettes, Zeto, et qui a été un grand champion de judo. Et un soir débarque Tony, un jeune et enthousiaste judoka qui souhaite défier l'ex-prodige. Et à partir de là, vont se dérouler plein de choses. Il y a aussi Mona, une apprentie chanteuse, qui est décidée à se produire dans son club. Et tous ces personnages vont aider Zeto à aller vers sa rédemption. Alors c'est un film typiquement Johnny To. Johnny To, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais ça a été un moment avec Élection, PTU, Breaking News, vraiment un réalisateur qui a compté énormément, qui compte toujours, mais malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Hong Kong, c'est plus compliqué aujourd'hui de faire des films, et en particulier avec sa boîte qu'il a montée avec YKFI, qui s'appelle Milky Way, et où il a fait des films très particuliers, en dehors de ses grands polars. Il a fait aussi des films très atypiques, où venaient se mélanger tout à coup, comme ça, humour, arts martiaux, chansons, voilà, c'est ce qu'on voit là, d'ailleurs dans ce film-là. Dans un autre film qui est sorti récemment, il y a aussi plein de ruptures de ton. Ça s'est sorti chez Spectrum Film, un film des débuts de Milky Way, qui s'appelle Expect the Unexpected, un film de Patrick Yeo, mais que Johnny To dit avoir réalisé aujourd'hui. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et qui raconte, donc avec le fameux Simon Yam, l'excellent Simon Yam, qui mène une bande de policiers à traquer des braqueurs, en fait, qui sont au départ des braqueurs de bijouterie, qui sont un peu des gens qui viennent de Chine, hein, d'ailleurs, qui débarquent à Hong Kong, évidemment, hein, 98, on est toujours dans la rétrocession, hein, qui viennent un peu foutre le bordel, mais sauf que c'est des pieds nickelés, ils ne sont pas méchants, voilà. Et par contre, quand les policiers les poursuivent, ils tombent sur une bande de vrais méchants. Et il y a plein de policiers qui se font flinguer. Et à partir de là, il y a une traque et il faut retrouver ces vrais méchants pour le coup, là, parce qu'il faut les empêcher leur spirale de destruction, leur spirale de mort. Et film très étrange, puisqu'il démarre magnifiquement. Il y a des scènes de polar hyper tendues, c'est tendu, comme dirait l'autre, comme l'élastique d'un slip. C'est monté au cordeau, c'est impressionnant. Les 20 premières minutes sont haletantes. Et puis tout à coup, pendant 40 minutes, on a une comédie romantique. C'est-à-dire qu'il y a un triangle amoureux entre deux flics et une serveuse. Et puis tout à coup, on repasse au polar dans la dernière partie. Alors c'est très étrange parce que le début du film, c'est vraiment du polar et très glauque, hein. À un moment, on se ramène, la caméra arrive dans l'appart d'un des méchants
Et parce que les méchants sont méchants, par contre, c'est sans ambiguïté. Hein. Et il y a carrément des femmes nues, ligotées, violées, à moitié mortes, parce qu'en fait, son loisir, c'est de s'installer chez des gens comme ça, et puis de tuer les femmes en les violant jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Personnage donc assez sympathique, hein, voilà, totalement ignoble, un vrai méchant. Puis tout à coup, on abandonne ces méchants pour cette histoire de romantique. C'est très étrange, voilà, et on revient au polar, et le final est glaçant. On retrouve la puissance du premier quart d'heure, des premières 20 minutes. C'est un étrange film, hein. Comme le dernier film dont je vais vous parler, Love and Peace de Son Ocean, un film de 2015, qui raconte l'histoire du timide Ryoshi, qui enfant rêvait de devenir chanteur punk, et qui maintenant est vendeur anonyme, comme beaucoup de monde. Hein. On a des rêves enfants, puis après, voilà. Devient vendeur anonyme dans une multinationale, et il est amoureux de la belle Yuko, mais il n'arrive pas à lui avouer. Sa vie va basculer parce qu'il va rencontrer une tortue qu'il va décider d'adopter. Alors c'est vraiment un étrange film de Son Ocean. Alors Son Ocean, c'est un fou capable de faire des films très cul, très gore, voilà, démentiels, et avec des idées de mise en scène plein à la seconde. Voilà. Et là, c'est l'histoire d'un loser qui va arriver plein d'aventures, et c'est très étonnant parce que c'est un film très libre qui est en fait, je pense, le seul film familial de Son Ocean. C'est un film très coloré et j'ai plus le temps, donc je vous le conseille très très vite, très rapidement. On reparlera de tout ça, de toute façon on fera une spéciale Son Ocean. C'est un réalisateur qui mérite qu'on s'y attarde longuement, et on vous remercie de nous avoir suivis, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, acquérir tous ces magnifiques Blu-ray et DVD. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.